端，没有终端。
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et émission spéciale sur les événements de 1917 et de tout ce qui passe avant et de ce qui se passe après. Mais on est quand même dans l'actualité de 2017. Alors Jean-Marc va nous faire une chronique qui s'appelle « Creuse pas plus bas, tu vas arriver en Chine ».
Oui, parce que nous sommes vraiment arrivés au fond du fond, aussi bien au niveau de la presse qu'au niveau des hommes politiques en France et à l'étranger. Il n'y aura pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Et on va faire un décrescendo, on va commencer par le pire pour arriver au plus dérisoire. Le pire, c'est quand même Trump avec son annonce donc de la reconnaissance de Jérusalem, qui est quand même l'une des plus belles conneries de ce siècle, qui est pourtant déjà riche en conneries, et qui suit un autre siècle qui avait été très riche en la matière. Cette décision unilatérale va allumer le feu, ça va faire plaisir aux fans de Johnny dans tout le Proche-Orient. Et évidemment, on peut se poser la question de savoir pourquoi Trump, même s'il a une tendance à être un peu débile, a allumé justement ce nouveau foyer dans un endroit où il le couvre toujours et où il n'y a pas besoin de craquer des allumettes. Alors peut-être y a-t-il une explication à chercher dans la politique intérieure américaine. L'explication serait dans l'enquête russe qui cerne de plus en plus le président américain et qui pourrait le conduire à quitter la Maison Blanche un peu plus tôt que prévu. Et la question qu'on peut légitimement se poser après cette nouvelle horreur donc de Trump, qui a déjà causé des morts et qui va sans doute en causer beaucoup dans les semaines qui viennent, eh bien, ne serait-il pas temps que les politiques américains mettent les bouchées doubles pour mettre en place la politique et la procédure d'impeachment pour virer ce débile de la Maison Blanche et que les puissances mondiales aident les politiques américains en déclarant persona non grata sur tous les territoires ce triste sire. Alors, pour ne pas faire que de l'anti-américanisme primaire, même si on aime bien ça, on va parler de notre cher président qui donne des leçons aux Africains en leur disant qu'il ne leur donne pas de leçons, c'est très intelligent, qui va ensuite au Qatar pour parler des droits de l'homme, mais surtout pour vendre des avions, des chars et différentes choses, en oubliant au passage que le Qatar est l'un des plus grands financeurs de terroristes de toute la région et du monde, et qu'il continue malgré tout à financer des terroristes en Syrie, au Mali, partout, et qu'une partie des morts français des différentes opérations extérieures sont dues à de l'argent qatari. Mais c'est pas grave, ils ont acheté le PSG, donc on leur pardonne. Après ça, donc Macron qui n'est jamais en panne pour ce qui est de la communication et du degré moins 50 de l'absence de complexe, va se rendre aux funérailles de Johnny et chose quand même assez répugnante pour un président d'une république laïque, il va prendre la parole dans une église. C'est très très fort, mais comme ça, ça va peut-être faire remonter un peu sa cote, on ne sait jamais, tout est bon à prendre, et surtout ça va peut-être permettre, là aussi, un contre-feu, empêcher qu'on parle des retraites, puisque c'est le prochain sujet et la prochaine attaque de ce gouvernement de droite. Alors, la télé française a été à la hauteur pour tout ces dernières semaines, et je vais revenir sur une chose qui date d'il y a donc une semaine exactement, avec quelque chose qui rappelle l'ORTF des années 60, l'émission réquisitoire contre Jean-Luc Mélenchon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la question n'est pas là. On a assisté à une sorte de corrida absolument ignoble, avec une émission montée à charge contre l'invité. Ce n'est plus une interview, c'est simplement une série d'invités qui sont là pour essayer de démolir et de décrédibiliser la personne invitée. Alors si on fait le compte des gens qui sont intervenus face à Jean-Luc Mélenchon, on a trois adversaires donc dans ce débat, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler de débat, qui sont des gens qui sont de La République En Marche. Il y a un journaliste pontifiant qui est là toujours dans l'émission, condescendant, ultralibéral, notoire, qui ne s'en cache même pas d'ailleurs. L'un des autres journalistes est un ancien membre de l'UMP. Dans ceux qui sont intervenus, il y a un ex-anard devenu lèche-botte de Sarkozy. Vous avez bien sûr reconnu Val, qui après avoir été anard, a été l'un des séides de Sarkozy. Et donc sur un total de 8 intervenants, sans oublier 5 agriculteurs 100% purs FNSEA, très ravis de se suicider au glyphosate, nous avons donc assisté à un grand moment temps d'information, de démocratie et de débat. Il n'y a pas de doute, on progresse sur les libertés publiques en France. Alors, la même presse, toujours aussi poubelle, et le même pouvoir. On sent aussi cette semaine un vieux débris, nostalgique des colonies, un grand bourgeois hautain et méprisant, ancien rédacteur du plus grand torchon réactionnaire français, le mal nommé Figaro, propriété d'un marchand d'armes, corrupteur et acheteur d'électeurs. Tout ça va très bien, et pour féliciter tous ces braves gens, eh bien, ça fait des grandes croix de la Légion d'honneur et les Invalides, et pendant ce temps-là, c'est nous qu'on paye, ma bonne dame. Et pour finir, bien sûr, on pouvait pas faire ça sans aller sur le Johnny National, les mêmes, en plein délire, pour annoncer, commenter, délayer la mort de l'idole des jeunes jusqu'au-delà des frontières du ridicule, au point d'annuler demain 3 heures de Téléthon pour diffuser les images du cortège funèbre et une série de Harley Davidson avec un cercueil au milieu. Et pendant ce temps-là, les enfants pourront se taper des maladies parce qu'on n'aura pas récolté d'argent pendant 3 heures. C'est quand même très très fort. Et donc, tout cela arrive à la Madeleine. Et donc, au milieu des outrances de la télévision, exemple de platitude, on va oublier aussi que l'idole des jeunes était aussi l'idole du fisc et pas vraiment béatifiable sur plein de points. Un doute m'étreint, dois-je d'abord rire ou d'abord vomir ou peut-être faire la révolution ?
Quelle logorée, cher Jean-Marc, quelle logorée. On a l'impression d'avoir vu les médias qu'on n'a pas pu voir cette semaine, parce qu'on n'a parlé que de ce gars-là qui est décédé, là, je ne sais plus son nom. Mais alors qu'il s'est passé un peu quelque chose quand on t'écoute. Hein. Mmh. Alors, on va aussi revenir un peu dans le temps pour une lecture de Patrick qui s'appelle « Une drôle d'atmosphère ».
Oui, parce que tout de même, les morts, attendez, il y a Johnny, mais il y a aussi Dormesson. Qui est mort, faut pas l'oublier. Mais on va pas parler que des morts, parce que heureusement, il y a une naissance qui approche. Faut quand même dire que Noël n'est pas loin. Donc, avant de passer à la commémoration de la Révolution 1917, disons un petit mot de Noël.
Noël ma mère, ancien député écologique.
De l'humour à la Jean-Marc, mais je ne le vois pas. Et donc, c'est pas très réjouissant cette atmosphère malgré tout dans les grandes cités, par exemple dans Paris. Tout de même, oui, drôle cette espèce d'atmosphère. En fait, pas très, ou pas d'atmosphère du tout. Ça respirait à peine et plutôt de travers, les nez trahissaient un peu de bruit qui vibrait des naseaux et puis cette petite buée qui fait « allô ». Ça se frottait sur les trottoirs et ça s'amplifiait dans les magasins, les grands surtout, trafiquants d'atmosphère et spécialistes de l'emballage-emballement. Carillonnez de joie lucrative, pressez-vous chaudement, sillonnez dans la boue marchande sous les néons étoilés, chantez d'allégresse soyeuse, latexée champouineuse, plongez au fond des délices, goûtez, c'est gagné, voltez, virevoltez, jouez des points sur le ring, drink et ressortez KO. Ok. L'espace urbain était balayé de fond en comble. Il suffisait de lever la tête pour s'en apercevoir, mais très peu le faisaient. S'apercevoir que les étoiles décrochaient, éteintes une à une par la puissance des réverbères et des vitrines qui réfléchissaient les visages pansus, bouffis avant même qu'on ne les réveillonne. Ça se pressait de chair enfantine, de morve inspirée mimétiquement par les coulées de lumière tombant des combles des vitrines. Mamie Papy pressait chaudement, il allait naître, le Père Noël, dans son traîneau rouge et blanc, il rainait en maître depuis des années qu'il nous tino-rossissait la dinde. Ici, les grandes marques étaient à l'honneur. Il fallait faire nouveau et remballer Pertino avec ses sabots de cadeaux et puis nouveau, nouveau, roqué sur sac Vuittoni, aplati en nouilles à la hanche de poupée sexy. Tu seras une femme, ma fille. Là, les monstres étaient à l'honneur. Il fallait faire neuf. L'ancien était dépassé. Les concept designers fourbissaient sans plus attendre des robots langeurs pour chanter dès l'an prochain les louanges du marmot. Il fallait déjà y penser. Alléluia, alléluia, il va naître, alléluia, alléluia, il va naître l'enfant nouveau, reconceptionné par les concept designers. Même l'armée du salut avait disparu le salut. Une drôle d'atmosphère tout de même. Les campagnes, sans guirlandais, se lançaient dans de folkloriques concours d'illumination jusqu'aux épouvantails, mais s'engueulaient avec une force urbaine. Non, de là, on verrait bien qui commandait encore. La glèbe, sans maudire, resserrait ses sillons, congelait le sang de ses bataillons enfouis sous les lombrics. On pouvait encore lever les yeux vers les étoiles. La nuit, les zeppelines de pub restaient à l'étable. Pour le moment. Aux vitrines pâtissières, galettes de roi découronnées précédaient la naissance divine et les concept managers fourbissaient déjà les œufs qui, peut-être, à force d'anticipation, finiraient par éclore avant d'être pondus. Délivré du temps, je vous l'annonce. Oyez, 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 lâche Jean, enfin libéré de l'angoisse temporelle. Voici le calendrier synthétique du tout en un. Si demain vous inquiète, oubliez demain, vivez-le aujourd'hui. Si hier vous regrette, oubliez hier, il est aujourd'hui. Anticipez l'oubli de votre mort. Naître ou ne pas naître, une naissance nouvelle tous les jours. Il fallait forger les concepts, faire naître à coups de forts concepts. Une naissance par jour, mourrez à hier qui n'existe plus, renaissez sans cesse, une naissance par jour et 5 fruits et légumes.
Tout est dit. Alors on fait une petite pause musicale pour annoncer notre thème qui est bien entendu la révolution et on va écouter Tracy Chapman, Talking About Revolution.
Don't you know, talking about a revolution sounds.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Vous l'avez compris, nous allons parler de Russie, de révolution russe, l'année 1917, mais aussi tout ce qui précède. Alors autour de la table, il y a Jean-Marc, bien sûr, qui va nous apporter son point de vue historien. On a aussi Bob, de l'émission de vendredi prochain, mais qui est là aujourd'hui, et qui va lui nous parler aussi, en historien, des soviets, et plus peut-être aussi de cette épopée, plutôt de tentative démocratique, et de ce qui s'en est suivi. Et puis au téléphone, on a de Rouen, Patrick.
Bonsoir.
Qui lui va intervenir dès à présent pour nous raconter justement tout l'avant 1917, parce qu'une révolution, en général, il y a des raisons.
Oui, une révolution, c'est toujours un processus très long, et le processus, il y a un moment de basculement, mais il y a un moment où il y a une société qui est en train d'exploser. La société russe explose parce que c'est une société qui vient de du servage. Le servage est à peine aboli il y a 50 ans, et il structure encore toute la société. Il structure les campagnes, les paysans sont sous la coupe des nobles, mais il structure les usines, parce que dans les usines, le chef il se comporte comme les nobles, et il va structurer l'armée dès le début de la guerre de 14, parce que les officiers sont des nobles et les soldats sont des paysans. Donc on est dans une société féodale avec une noblesse qui pense avoir tous les droits. Il y a toujours la possibilité de sévices corporels dans l'armée, des choses comme ça. Bon. Et à côté de ça, donc une société complètement ossifiée, et à côté de ça, une bourgeoisie assez faible parce qu'il y a un développement économique énorme, mais qui vient par des capitaux étrangers, avec des usines hyper concentrées, hyper modernes. À Petrograd et dans les grands centres industriels, il y a un prolétariat dans des usines énormes, 40, 20 000, 10 000, 5 000 salariés, les plus modernes d'Europe, avec une contradiction complète entre cette société de fonds et le développement d'un capitalisme hyper moderne avec des capitaux étrangers. Bon. Et tout ça explose, évidemment. Ça explose, il y a une grande famine à la fin du 19e, ça explose au moment de la révolution de 1905. Au moment de la révolution de 1905, par exemple, on parle beaucoup de la grève générale, mais il y a eu 3000 révoltes paysannes dans toute la Russie, avec un niveau de répression qui est colossal. Il y a plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers d'arrestations. Enfin, bon, voilà, une société qui est déjà complètement en explosion. Avec une chose qui est très importante et une leçon qu'on compris les ouvriers et les paysans qui se sont révoltés de manière explosive en 1905, c'est que les libéraux qui sont pour sortir de la, comment dirais-je, du tsarisme, ils ne sont pas prêts à soutenir les revendications sociales des paysans et des ouvriers. Parce que quand la révolution de 1905 a poussé plus loin qu'à avoir un parlement, la Douma ou des choses comme ça, ceux d'en haut, ceux, les libéraux, les, l'intelligentsia, etc., les ont laissés tomber et les ont laissés face à la répression. Et ça explique, ça expliquera après la grande défiance qu'il y a des masses prolétariennes et paysannes, qui sont, qui représentent 90% de la population, qui sont en mouvement envers toute cette couche-là. Alors, juste pour qu'on finisse sur l'avant la Révolution, en réalité, après 1905, il y a une phase de 2 ou 3 années de répression très violente, comme je viens de le dire, et à partir de 1910, les luttes reprennent. Les luttes reprennent, il y a une élection, par exemple à la Douma, les bolcheviks sont des députés, il y a la Pravda paraît à 40 000 exemplaires par jour, et il y a des grèves, des luttes extrêmement importantes, hein, pour avoir un ordre de grandeur, dans les jours qui précèdent la déclaration de guerre, en juillet 17, il y a 5 jours de grève générale à Petrograd, avec des batailles de rue dans toute la ville. Donc le mouvement est un petit peu arrêté par le début de la guerre, mais il repart dès fin 1915 et 1916. Et 1916, il y a des dizaines et des dizaines de grèves politiques pour la paix et les autres revendications. Donc quand arrive février, on est dans un pays qui a été labouré par un début de révolution, une début de période révolutionnaire, avec des montées et des descentes, mais d'une conscience qui a été déjà travaillé par tous ceux qui se sont battus là. Avec une chose fondamentale, c'est que l'État tsariste est incapable de faire fonctionner la société. Deux choses pour finir là-dessus. Premièrement, ils sont incapables de... Par exemple, dans les premiers régiments qui partaient se faire tuer au front, il y avait un fusil pour 2 soldats. Parce qu'ils étaient incapables de fournir un fusil par soldat. Ils étaient incapables, l'État était incapable de soigner les soldats. C'est la Croix-Rouge qui assurait le soin des soldats. Les entreprises ont mis en place un comité des industries de guerre parce que l'État était incapable d'apporter un approvisionnement normal aux usines. On a donc un pays qui est avec une montée révolutionnaire et un État qui est en train de partir en miettes. Et la guerre de 14 va le faire exploser.
Et en parallèle, il y a aussi une organisation politique, ou même plusieurs, qui sont organisées depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, en 1917.
Alors, il y a en fait 3 organisations politiques. Il y a les socialistes révolutionnaires, qui c'est une organisation la plus grosse, en réalité, parce qu'ils sont implantés dans la paysannerie, et donc dans les usines, parce que c'est d'anciens paysans, et eux, ils pensent qu'on peut arriver au socialisme par la commune paysanne. Et puis, il y a les 2 courants issus du Parti social-démocrate ouvrier, les bolcheviks et les mencheviks. À l'entrée de la guerre, en 14, les bolcheviks sont déjà majoritaires. Ils vendent la Pravda à 40, 60 000 exemplaires. L'estimation, c'est qu'ils sont au moins entre 20 et 30 000 militants. Et certains disent 40 000, bon, c'est pas trop. Et les mencheviks sont moins forts et dans des secteurs moins prolétariens. C'est encore une grosse organisation, quoi. C'est ça, les 3 organisations. À l'entrée de la guerre.
Donc ils sont bien implantés pour certains dans les campagnes, d'autres dans les villes, dans les usines, et avec une organisation qui permet d'imaginer prendre le pouvoir. D'ailleurs, il y a des tentatives et des envies de prendre le pouvoir.
Ce sont des organisations, les 3 d'ailleurs, qui se sont fabriquées face à la répression tsariste. Un militant bolchevique moyen, il n'avait pas 2 années en moyenne sans être arrêté et se retrouver en prison d'une manière ou d'une autre. Donc toutes les autres organisations étaient dans la même situation. Il n'y avait pas de place pour le développement d'une social-démocratie à la française dans la Russie tsariste. Il fallait, de toute façon, il y avait un niveau de répression tel qu'il y avait une radicalisation de tous les militants, de toutes les organisations, pas seulement les bolcheviks. Et les bolcheviks étaient les plus structurés avec les socialistes révolutionnaires.
Et donc c'est dans ce contexte que la guerre est là, les troupes font défaite sur défaite, il y a aussi des problèmes de nourriture, d'approvisionnement dans toute la Russie, et on arrive en février 17, et je crois que Jean-Marc va nous essayer de nous décrire un peu rapidement les événements eux-mêmes de l'année 17.
Alors, le février 17, c'est une révolution express, un petit peu inattendue, qui explose comme un pétard, et le tsarisme va être laminé d'un coup. Contre toute attente, il n'y aura pas de possibilité de réaction du tsarisme. Les troupes ne se solidarisent pas avec le tsar, ce qui fait la différence avec 1905, où la troupe avait accepté de tirer sur les manifestants. Cette fois, c'est pas le cas, et le tsar n'a plus d'autre solution que d'abdiquer, ce qu'il va faire, ce qui laisse la place à un grand flottement et à la mise en place d'un double pouvoir de fait, avec d'un côté le gouvernement provisoire, d'abord tenu par un grand prince qui s'appelle Lvov, puis par l'avocat Kerensky, qui est menchevique, et de l'autre le soviet de Petrograd, qui est la deuxième jambe de ce pouvoir, et qui est beaucoup plus légitime, puisque élu, avec des représentants élus dans les quartiers, dans les usines, etc. Donc c'est une sorte de période un peu bizarre, avec des allers-retours entre un pouvoir très structuré, qui est le gouvernement provisoire, mais qui n'a pas de troupes, et de l'autre côté, le soviet qui représente vraiment la population et qui lui a des troupes au sens propre comme au figuré, puisqu'une bonne partie des soldats de Petrograd vont venir grossir le soviet et donc former des soviets de soldats extrêmement puissants à l'intérieur du soviet de Petrograd. Alors le Lvov va essayer de ménager la chèvre et le chou, avec un problème qui se pose tout de suite, savoir si on doit ou non continuer la guerre. Avec les bolcheviks qui poussent dès le départ pour que la guerre s'arrête, en disant que la guerre est une guerre impérialiste, que c'est la guerre des tsars, et que la population russe en est fatigué et qu'il ne faut pas la continuer. Et de l'autre, une partie des démocrates russes issus de la Douma, qui n'étaient pas représentatives mais qui avaient une certaine expérience politique et vont donc assumer le pouvoir, vont dire il faut continuer pour deux raisons. La première, on a des engagements vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, et si nous sortons de la guerre, ce sera une catastrophe. Et la deuxième, c'est que les Allemands sont déjà en train de progresser partout sur tous les fronts. Si on arrête la guerre, la Russie va être envahie. Et donc, révolution ou pas révolution, on doit défendre l'intégrité du territoire. Et finalement, cette position de continuer la guerre, au départ, est très entendue, même à l'intérieur du soviet de Petrograd, assez curieusement. Et les ouvriers, au départ, et les soldats, ne remettent pas en cause la continuation de la guerre, mais la manière de faire la guerre. Et justement, le fait de ne plus être... Ils ne veulent plus être sacrifiés pour rien par des généraux qui comptent leurs médailles au nombre de leurs tués. Finalement, le Lvov ne réussit pas à louvoyer, et il va, à la suite de plusieurs problèmes avec certains de ses ministres démocrates, sociaux, devoir céder la place à Kerensky, qui est un personnage très, très charismatique, et qui va donc prendre la tête d'un deuxième gouvernement provisoire et vouloir lancer une grande offensive et une grande réorganisation de l'armée russe. Il va d'ailleurs payer de sa personne, faire une tournée de plusieurs milliers de kilomètres pour voir cantonnement après cantonnement tous les Russes au front, pour essayer de lancer une grande offensive et permettre justement de repousser les Allemands et de soulager les Français et les Anglais. Sauf que l'offensive Kerensky va être une épouvantable défaite, parce que d'abord c'est mal organisé, Kerensky est peut-être un grand orateur mais c'est pas un militaire, et deuxièmement parce qu'une partie des soldats ne vont pas suivre. Ils vont écouter les discours, mais au moment de monter au front, ils vont dire « nous, on se barre ». Et donc, évidemment, ça crée une panique à l'arrière qui va aboutir aux journées de juillet-août à Petrograd et à Moscou, avec donc une révolte de rue qui va être durement réprimée. Et là, il va y avoir une scission entre des groupes de l'armée qui vont suivre les mencheviks et ceux qui vont suivre le soviet. Et donc là, en fait, en juillet-août, tout est joué. Kerensky est déjà condamné. Et c'est ces journées de répression de juillet-août qui vont permettre, favoriser l'éclosion de la révolution d'octobre, qui va arriver, elle aussi, un petit peu par hasard, mais sur un substrat qui ne permettait pas autre chose.
Il y a aussi pas que les villes et les fronts, il y a aussi les campagnes, où dans tout l'été, les paysans prennent progressivement occupation des terres, et c'est aussi une des explications pour lesquelles les soldats quittent le front.
Alors les soldats quittent le front aussi parce que beaucoup de ces soldats sont des paysans ou des ouvriers qui étaient avant des paysans et qui vont dire bah justement on récupère les terres, donc nous on quitte le front pour aller prendre les terres avant que les terres soient prises. C'est-à-dire qu'on veut, on veut avoir notre part du gâteau, si on reste au front on n'aura pas notre part du gâteau.
C'est bon. Ouais.
Patrick, tu veux ajouter quelque chose ?
Mais non, c'est tout à fait ça, parce que la tradition de répartition des terres, c'était en fonction du nombre de bouches à nourrir. Mmh. Et donc, évidemment, il y a 2 millions de soldats qui désertent entre février et octobre avec armes et bagages. Pour ces raisons-là, tout à fait.
Bah, c'est l'occasion de faire une petite pause. On va écouter un duo Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday. Non, pardon, n'importe quoi. On va plutôt écouter Jill Scotteron, « The Revolution Will Not Be Televised ».
able to stay home, brother. Will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires avec des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous poursuivons la révolution de 1917. On a parlé de tout ce qui s'est passé avant octobre 17, mais on a surtout employé un mot qui est revenu très souvent, c'est le mot soviète. Alors j'espère que vous saviez ce que c'était, mais si vous ne le saviez pas, Bob va nous expliquer ça en détail.
Ok, alors soviète, c'est pas compliqué, ça veut dire conseil. C'est-à-dire que en fait, c'est juste des gens réunis en conseil, quoi. On a fait tout un pataquès avec ce mot, mais c'est ça fondamentalement. C'est-à-dire, grosso modo, ça apparaît quand ces systèmes de conseil, ça apparaît surtout quand le pouvoir est à la ramasse et notamment qu'il n'est plus capable d'assurer des tâches de base, genre la protection des biens et des personnes, le ravitaillement, etc. Donc, résultat net, les gens s'assemblent pour pouvoir assurer ces tâches minimales de civilisation, on va dire. Sinon, il n'y a plus rien. C'est le chaos. Et donc pour éviter ça, ils se rassemblent et ils s'organisent. Et quand le front se disloque, quand des choses comme ça se passent, les gens s'organisent. Alors pourquoi ça donne un rôle aussi important aux soviets, c'est que ça allait être une structure essentielle dans la prise de pouvoir en 1917, en octobre notamment, parce que ça a déjà une tradition, c'est quelque chose que les Russes connaissent déjà, hein. Ça remonte à 1905, et là il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le prototype du soviet, en fait, c'est le soviet de 1905, c'est-à-dire un rassemblement spontané d'ouvriers essentiellement, d'ailleurs, à l'époque, avec quelques paysans et pas d'armée. En 1905, c'est un soviet purement civil. C'est pas très étendu, hein. Il y en a en Petrograd, il y en a quelques-uns ailleurs dans le pays, mais c'est pas une floraison. Mais par contre, c'est très spontané. Ça apparaît sans que quelqu'un ait théorisé quoi que ce soit, etc. Ça donne quand même des bons résultats parce qu'ils arrivent à imposer des élections plus ou moins démocratiques, en tout cas une Douma là, mieux élue. Il y a quand même quelque chose qu'ils obtiennent, c'est la révolution de 1905. Mais bon, ça ne résiste pas à la répression, tout ça retombe. En 1917, le processus c'est pas le même. Les soviets de 1917 sont appelés par le haut. En réalité, des intellectuels, sociaux-démocrates notamment, appellent parce qu'ils sont désemparés. Le tsar vient de tomber. Le pouvoir est à la ramasse, là encore. Ils appellent à la constitution de soviet et appellent les ouvriers et les paysans et plus tard même les soldats à envoyer leurs délégués aux soviets. Hein, donc ils font une proposition. Et, hasard de l'histoire, cette fois-ci, la proposition est reprise. Est reprise à une échelle de masse, c'est-à-dire que cette fois-ci, les soviets se multiplient dans tout le pays, sur tout le territoire de l'Empire russe. Et là, donc, c'est quelque chose qui a un impact énorme, parce que les soviets sont en capacité, effectivement, de concentrer la légitimité des forces armées, la légitimité des paysans et la légitimité des ouvriers. Et quelque part, ils privent des ressorts essentiels du pouvoir d'État, l'État justement, puisque ils font basculer notamment le monopole de la violence de leur côté, puisque les soldats écoutent les soviets. Et plus ça va en 1917, plus l'année se déroule, plus les soldats écoutent exclusivement les soviets et de moins en moins leurs commandements et de moins en moins les pouvoirs d'État. Et donc quelque part, il s'en faut de peu que tout le pouvoir n'arrive naturellement aux soviets. Mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, notamment parce que les partis sociaux-démocrates sont très divisés sur ce que sont les soviets et à quoi ils peuvent servir. Si on prend par exemple les mencheviks de gauche, ils vénèrent les soviets comme le modèle, enfin obtenu l'autogestion locale. Ils pensent ça quand ils pensent aux soviets locaux, ils pensent moins aux fabriques d'usines, ils sont plutôt du côté des syndicats. Donc déjà il y a des nuances. Les conseils de fabrique ça va pas, mais les soviets c'est bien. Par contre le pouvoir c'est bien aussi la constituante et c'est bien la Douma. Et les Zemstvo, enfin grosso modo, ils veulent les soviets comme parfait exemple un peu idéalisé d'autogestion, mais les choses sérieuses se font ailleurs. C'est un peu la même chose avec les SR. Alors pour les socialistes révolutionnaires, donc, mais alors pour les bolcheviks, c'est marrant parce que au début, ils ont pas une confiance, enfin ils ont même pas du tout confiance dans les soviets. C'est pas vraiment leur leur tasse de thé. Eux, ils vénèrent le parti, c'est-à-dire que c'est le parti qui doit être la force motrice parce qu'il n'y a pas d'autres forces suffisamment structurées qui soient capables de faire ce travail. Et les soviets sont une expérience intéressante, mais au fur et à mesure, ils s'aperçoivent quand même du potentiel révolutionnaire de cette structure, et donc ils se mettent de plus en plus à parler de pouvoir des soviets, voire tout le pouvoir aux soviets. Alors et donc ça devient finalement leur identité quelque part. Ils s'identifient avec le parti qui appelle tout le pouvoir aux soviets, et donc ils prennent de vitesse les autres qui avaient reconnu plutôt la valeur des soviets, mais qui en sont restés là. Et donc ils gagnent un avantage décisif parce que c'est quelque chose que les ouvriers, les paysans et les soldats regroupés dans les soviets sont de plus en plus prêts à entendre. Et donc il y a cette propagande bolchevique a de plus en plus de prise sur eux, et les bolcheviks sont de plus en plus respectés et de plus en plus représentés dans les soviets. Enfin, il faut savoir que les élections sont assez régulières, hein. Les soviets, ça se renouvelle assez vite, et donc les changements d'orientation générale et d'ambiance politique dans le pays se reflètent quand même dans les soviets. Et les bolcheviks progressivement gagnent une minorité inconfortable, suivie d'une majorité dans les soviets. Pas tous, hein, attention, mais ceux qui comptent, hein, et ceux qu'on est capable de centraliser. Voilà. Donc quelque part, c'est il y a déjà une forme de biais dans la représentation, mais voilà. Pour les bolcheviks, à ce stade-là, donc juste avant octobre 17, le mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets a fonctionné pour eux. Politiquement, ça a été très payant. Et ils se sont mis en position, en fait, d'en faire une réalité. Seulement, voilà, les soviets ne sont pas une structure apte à prendre le pouvoir. Pour s'imaginer un peu ce qui se passe dans les soviets, faut voir un peu la chose suivante. C'est des assemblées générales où on débat beaucoup, énormément. On passe très peu de résolutions, et celles qui sont passées sont généralement peu suivi des faits parce que il n'y a pas vraiment de procédure pour arrêter les objections, quoi. Tout le monde peut toujours resoulever une objection qui a déjà été soulevée ou la reformuler différemment. Et il faut entendre ce qui a été dit. C'est très démocratique. Et quand il y a une situation de blocage, or les formules acclamatoires qui là sont effectivement une véritable portée parce que là, pour le coup, c'est une ligne politique qui est donnée, mais pour les côtés pratiques, très souvent, on remet ça à une commission qui se réunira une ou deux fois et qui ne donnera pas beaucoup de suite. Si ça vous rappelle Nuit debout, c'est normal, c'est un peu la même chose. Et donc c'est en fait en termes de pouvoir, hein, alors ça représente très bien, ça structure aussi et ça permet une énorme circulation des idées. Donc ça a permis une maturation des classes et de la conscience de classe dans le pays. Mais par contre, c'est pas une structure qui du jour au lendemain pourrait décider, bah tiens, on va prendre le pouvoir. Et là, il y a une difficulté, parce que dire tout le pouvoir aux soviets, ça demande quand même qu'il y ait une bascule, qu'il y ait un acte volontaire qui soit fait. Or la structure elle-même n'est pas en capacité de le faire. Et la solution qui est trouvée par les bolcheviks, notamment qui est défendue par Lénine, c'est on va le faire pour eux. C'est-à-dire, grosso modo, on va attendre le congrès des soviets qui approche, et on va leur livrer le pouvoir qu'on aura pris juste avant. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais ils l'accepteront, parce que le mot d'ordre, c'est tout le pouvoir aux soviets. Et en plus, les bolcheviks pourront le valider. Ils sont en majorité avec les SR de gauche dans les soviets. Ça se passera bien. Bon, ça s'est plutôt bien passé, en fait. En 1917, octobre, c'était un petit peu plus sanglant que la chute du tsar, mais pas beaucoup plus, hein. La prise du palais d'hiver, c'était pas extrêmement violent. C'est surtout les forces de défense qui ont déserté au fur et à mesure, et donc ça a basculé, parce que là encore une fois, dans ces phases-là de la révolution, en fait, le pouvoir n'est pas prêt à résister, et il n'y a pas encore de contre-révolution à ce moment-là non plus, et quelque part, la marche en avant se poursuit. Mais on voit bien là, avant de vous quitter, que on a quand même un problème dans la manière dont ensuite les choses vont se dérouler. C'est qu'il y a un malentendu au départ qui a vraiment pris le pouvoir. Hein, on dit tout le pouvoir aux soviets, hein, et les bolcheviks diront c'est les soviets qui ont pris le pouvoir, avec un peu d'aide du parti bolchevique, mais c'est les soviets qui ont pris le pouvoir. Sauf qu'on a vu que ce sont pas des structures vraiment de pouvoir, et que donc les bolcheviks pensaient s'en sortir il suffisait d'avoir l'hégémonie dans les soviets et tout se passerait bien. Le problème, c'est que l'hégémonie dans les soviets vous rend majoritaire et légitime, mais c'est pas une structure qui est réellement en capacité d'exécuter ce qui sera décidé, voire même de décider. Et donc, et c'est là que se met en place. Donc, la décision est de mettre en place un conseil des commissaires du peuple, c'est-à-dire un espèce de gouvernement. Alors, c'est pas le gouvernement provisoire, c'est pas supposé être un gouvernement bourgeois, hein, mais ce sont néanmoins des espèces de ministres, d'accord, qui sont théoriquement responsables devant le soviet et qui sont soutenus par une coalition des bolcheviques et des socialistes révolutionnaires de gauche. Voilà. Et ça, c'est les débuts du pouvoir soviétique, qui, en fait, de plus en plus, et peut-être, là, c'est la question qui va être débattue, je pense, qui peut-être, de plus en, dès le début, mais en tout cas, de plus en plus, sera un pouvoir du parti bolchevique, de l'État sur les soviets, et puis, quand les socialistes révolutionnaires de gauche ont quitté le gouvernement, des seuls bolcheviques sur les soviets. Et ça, il y aura peut-être beaucoup de choses qui s'expliqueront à partir de là.
Et ces commissaires du peuple ont été choisis pas par les soviets, ils ont été créés directement par le parti bolchevique.
Ah non, il y a eu quand même une négociation. Pour en arriver là, il y a eu un accord qui a été passé entre l'aile gauche des socialistes révolutionnaires qui se détachait à ce moment-là de l'aile droite, mais qui le processus qui était en cours hein, quand 17 octobre 17 est arrivé. Il y a eu un accord avec l'aile gauche des socialistes révolutionnaires pour former une espèce de coalition. Hein. Donc on est dans des formes qui sont pas très éloignées hein, de la démocratie représentative avec gouvernement responsable devant les chambres, hein. Même si normalement les soviets étaient leur propre exécutif. Voilà.
Et alors, comme dirait Lénine, et alors, que s'est-il passé après cette flamboyante révolution d'octobre ? Patrick, tu veux nous préciser ?
Juste sur ce point-là, le gouvernement a été validé par le Congrès des soviets. Hein. Il y avait un congrès des soviets qui se déroulait au moment de la prise du pouvoir et qui a validé les décisions. Donc formellement. Le congrès national des soviets a validé tout ça.
Mais c'est pas des... Enfin, là, pour le coup, quand on parle de coup d'État, c'est absolument pas... C'est pas du tout dénué de forme démocratique. Hein. Y a des choses qui ont été validées. Les bolcheviks ont pesé avant d'agir la majorité dont ils pouvaient disposer. Enfin, ils partent pas à l'aventure. Hein. Alors, ça n'a rien à voir avec ça.
Ça n'a rien à voir avec un coup d'État. Mmh. Octobre n'est pas un coup d'État. Mmh. N'a rien à voir avec un coup d'État. C'est le prolongement de février. C'est la masse des gens mobilisés qui voient que le gouvernement provisoire va pas satisfaire ce pourquoi ils se sont mis en mouvement et qui continuent. Je veux dire, au moment d'octobre, personne n'a compris que c'était qu'il y avait un changement. Tout le monde trouvait ça normal.
Oui, mais ça correspondait à la légitimité qui avait été mise en place.
Absolument.
C'était la suite logique que les gens demandaient. Hein. Ça c'est
absolument.
Vrai.
Mm-hmm.
Donc, entre ce 17 où une véritable démocratie populaire a permis d'avoir l'émergence de ces soviets et où un parti un peu plus fort que les autres impose à la fois en interne et en externe une nouvelle organisation, on se demande comment progressivement la démocratie évolue vers autre chose en tout cas. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent le principe de bureaucratisation de cette Russie et de bolchevisation aussi. Alors on peut peut-être faire une petite pause pour repartir sur ce sujet. Alors on continue sur la révolution, mais ce coup-ci, c'est celle de Trio.
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Nous avons parlé de tout ce qui se passait avant la Révolution, de la Révolution elle-même, et une véritable mise en place d'un pouvoir démocratique a lieu, mais porté par un parti très puissant, le parti bolchevique, au milieu de 2-3 autres forces politiques. Et pourtant, à partir de 17, tout s'inverse progressivement. Alors, qui veut intervenir sur...
Moi, je voudrais juste dire un mot sur en fait, Lénine. Lénine est un chef incontesté chez les bolcheviques, mais il est en exil jusqu'à après février. Il va rentrer clandestinement dans des conditions rocambolesques avec l'aide de l'Allemagne à Petrograd. Et là, il est assez bien accueilli, comme beaucoup d'autres révolutionnaires qui reviennent à ce moment-là. mais Lénine a déjà un côté hégémonique en lui. Il veut casser toute opposition dans le parti bolchevique. Il y a des débats très importants dans le parti bolchevique, notamment savoir si on doit participer à la guerre, si on doit participer avec le gouvernement provisoire, etc. Tout n'est pas réglé chez les bolcheviques quand Lénine arrive. Mais il va imposer sa ligne. Et en fait, le fait qu'il impose sa ligne va, à mon avis, être déjà l'un des éléments fondateurs de ce qui va devenir la confiscation du pouvoir.
Donc la question, c'est est-ce que le ver était déjà dans le fruit avec Lénine ? Il avait quand même d'autres personnages, et donc Trotsky aussi, bien sûr, face à lui. Alors Patrick, tu voulais intervenir justement sur ce phénomène.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce qui s'est passé dans la suite. Je voulais mettre un petit bémol sur ce que disait le copain sur le fonctionnement des soviets. Effectivement, il y avait des grandes assemblées comme ça. Le soviet de Petrograd, c'était 2800 élus. Il y avait un peu moins de 2000 soldats, un peu plus de 800 ouvriers. Bon, donc les assemblées générales de ce truc-là discutaient peu de choses. Par contre, le comité exécutif du soviet, lui, décidait. Et il avait des permanents. À partir de mars, il y a des centaines de personnes qui travaillent pour le soviet. Il y a des comités de quartier qui ont des permanents parce que pour faire des réquisitions de logements, il faut des gens qui partent pas au boulot, etc. Donc toutes ces structures sont des structures où il y a des débats, mais il n'y a pas seulement des débats. Il y a aussi un début de fonctionnement comme petit appareil d'État, limité, enfin bien, mais réel. Et qui était accepté par tout le monde, hein, parce que les permanents, ils étaient acceptés par les socialistes révolutionnaires, les mencheviks, etc., etc. Mais dans tout ce mouvement-là, il y a des structures qui sont des structures réellement représentatives de celles et ceux d'en bas. C'est les comités d'usine, les gardes rouges dans les usines, les milices dans les quartiers, les comités de soldats, les comités paysans qui ont de 36 formes. Ça, ça représente directement les gens. Mais les soviets, c'est des structures élu par tous ces comités-là. Et il y a une autre caractéristique dès le départ, c'est le fait que les partis ont des représentants à l'exécutif, non élus. C'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée élit un exécutif, et à cet exécutif sont associés des représentants des partis, qui ne sont pas élus. C'est comme ça que Trotsky se retrouve président du soviet de Petrograd, alors qu'il est dans aucun comité d'usine, aucun comité nulle part, parce qu'il est représentant du parti bolchevique et il est élu, comme tous les autres d'ailleurs, enfin comme les autres avant. Donc ça, c'est un premier processus qui existait avant. Le deuxième processus qui se met en branle à partir du, comment dirais-je, de la prise de pouvoir, c'est que la prise de pouvoir, elle est décidée par les bolcheviks. Et le pouvoir, il est pris par les bolcheviks. C'est indiscutable. C'est eux qui organisent tout. Bon. Le problème, après, c'est comment s'organise la démocratie qui se met en place. Bon. Et là, il y a des discussions dans le parti bolchevique. Il y avait des discussions dans le parti bolchevique pour savoir s'il fallait prendre le pouvoir ou pas, mais il y a des discussions après sur les formes de pouvoir. Je vais prendre deux exemples pour exprimer ce que je veux dire. Et ça se passe entre octobre 17 et juin 18. Juin 18, c'est le début de la guerre civile, c'est le début où les choses deviennent plus compliquées pour un débat, entre guillemets, démocratique. Bon. C'est le débat, par exemple, qu'est-ce qu'on fait du fonctionnement des comités d'usine ? Qui décide dans les usines ? Très rapidement, les comités d'usine, au départ, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. Ils voulaient avoir la journée de 8 heures, le contrôle des licenciements, et puis que les chefs... ils s'étaient débarrassés des chefs qui les insultaient et qui les battaient. Bon. Mais très rapidement, les patrons s'en vont. Et qui dirige les usines ? Hein ? Et donc là, il y a des discussions violentes au sein du parti bolchevique, entre les syndicats, les comités d'usine, au sein des comités d'usine, il y a des débats partout. Et le débat, il est, est-ce que c'est les comités d'usine qui doivent décider de la production avec une centralisation au travers d'un soviet central du contrôle ouvrier, qui est élaboré, qui est mis en place, on dit, les comités d'usine décident de la façon dont ils vont organiser le travail, les approvisionnements, et tout seront décidés dans le soviet central du contrôle ouvrier. Et il y a une autre position qui est celle des syndicats, qui est de dire, mais il faut qu'il y ait une décision centralisée dans le Conseil supérieur de l'économie nationale. Conseil supérieur de l'économie nationale, dans lequel les comités d'usine sont 5%, ils sont rien. Bon. Et il y a un débat qui dure 3 mois au sein du parti bolchevique, entre les bolcheviques et les courants libertaires qui sont là, avec et encore les mencheviques et les socialistes révolutionnaires. C'est un débat très, très important.
Mais je te coupe parce que justement je voulais dire que là-dessus on est d'accord. Par exemple sur l'échelle, à petite échelle, en proximité, effectivement les comités d'usine, les comités de quartier sont en capacité de gérer toutes ces choses-là. C'est effectivement ce qu'on leur reproche, c'est de manquer d'une vision globale et de devoir être articulé par d'autres qu'eux. C'est ça, en fait. Et dans ce combat qu'il va y avoir entre, d'abord avec les comités d'usine, c'est parce que c'est vrai que les comités de fabrique sont les premiers à être critiqués et finalement, liquidés quand même. Enfin, mi-1918, c'est terminé pour les comités de fabrique, quoi. Hein. L'affaire est réglée, quoi. Et petit à petit, d'autres institutions soviétiques vont elles aussi passer sous les fourches caudines. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le problème, c'est comment est-ce que quelque chose de très basiste, par définition, est très pertinent à petite échelle, se structure à grande échelle et finit par, en fait, prendre en compte des décisions. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises avec une très grande vue, sur des grandes distances de la planification et la stratégie militaire, par exemple, hein, entre autres questions. Et là, ils sont aveugles à des préoccupations comme celle-là. Donc comment est-ce que le sommet finit par imposer à la base? C'est tout ce débat qu'il va y avoir.
C'est qu'il y a eu un débat à ce moment-là sur les comités d'usine, par exemple, entre qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que c'est le Conseil supérieur de l'économie nationale, oui, qui est contrôlé par le gouvernement, c'est-à-dire par le parti bolchevique, et ou le soviet supérieur du contrôle ouvrier? Et le choix majoritaire du parti bolchevique, mais après une discussion extrêmement mouvementée, c'est que ce soit par le Conseil supérieur.
Bon, là, on est dans un niveau de détail qui est sûrement passionnant, mais qu'on n'aura pas le temps de faire dans le cadre de l'émission qui se termine. La vraie question, c'est cette bureaucratisation et ce pouvoir central s'imposent progressivement.
Oui, mais là on est d'accord, justement parce qu'il y a un débat, s'impose progressivement, mais pas sans débat. C'est-à-dire que s'il faut être clair sur quelque chose, c'est absolument pas un plan préétabli des bolcheviques.
Absolument.
Ils sont à chaque étape obligés de discuter entre eux et de trancher. Et c'est vrai que bon, on peut dire que quand même, peut-être c'est la force des choses, peut-être que c'est inhérent au parti bolchevique. Ça, on n'a pas pu le trancher ce soir, mais ils vont faire les choix qui petit à petit vont aller vers la bureaucratisation.
Ah, voilà. Ils font des choix centraux.
Voilà,
ils font des choix de passer par l'État et pas par les structures de base.
Exactement.
C'est nouveau. Mmh. Et ça, effectivement, ça renforce en permanence leur pouvoir.
Ouais.
Mais ceci dit, ça explique pas tout ce qui s'est passé après.
Mmh. Ça sera le cas d'une autre émission.
De conclusion, ouais, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si Benoît Hamon est en capacité de renverser Macron, quoi.
Oui,
c'était la seule et véritable mot de la fin. Alors le mot de la fin, ça sera le futur, c'est-à-dire l'agenda, et la révolution commence bien entendu demain. Et demain, ça sera samedi 9 décembre, Gaël.
Et Netanyahou doit venir à Paris, et justement samedi, demain à 14h, il y a une manif place de la République pour dire non, Netanyahou n'est pas le bienvenu.
Alors, le 9 décembre, place du Palais Royal, manifestation contre la baisse des APL, pas d'économie sur les dos des locataires, etc. Donc, c'est 9 décembre à 14h30, place du Palais Royal.
Dimanche 10 décembre, à Malakoff, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, deux rassemblements liés au prix Nobel pour la paix et pour l'abolition des armes nucléaires, dimanche à 10h.
Le même jour, à 16h, au Nouveau Théâtre de Montreuil, le Tribunal des Peuples impacté par la finance, donc 2 jours avant l'ouverture du sommet international de finance-climat. Voilà, donc 10 décembre, 16h, Nouveau Théâtre de Montreuil, 10 place Jean Jaurès.
Dimanche 10 décembre à 17h au CCIP rue Voltaire, c'est une soirée de soutien pour notre radio FPP avec la projection de petits films contre le grand capital et puis différents débats. Venez nombreux dimanche à 17h au CCIP.
Mardi 12 décembre à 8h place du Panthéon, pas un euro de plus pour les énergies du passé, une grande manifestation contre les énergies fossiles.
Et qu'il y aura des petites actions, hein, des heures sont encore à préciser, essayez de vous renseigner, parce qu'il y a un appel à perturbation pour le sommet Climat France qui aura lieu ce 12 décembre, mardi. Le sommet se tiendra sur l'île Seguin, Boulogne-Villancourt, mais le lieu exact pour les militants seront à préciser.
Alors, mardi 12 décembre, donc à 20h, restaurant chez Trasoudène, 3 Place Nationale, débat organisé par Ensemble 5e 13e, qui reçoit François Ruffin, député de la France Insoumise, bien connu.
Donc le jeudi 14 à 14h au 14 avenue Duquesne. Oui, non, c'est pas une blague. Donc c'est le conseil de discipline de notre collègue inspectrice du travail suspendue pour avoir exprimé une opinion syndicale et défendu le mandat de son syndicat. Donc tous rendez-vous donc à 14h au 14 avenue Duquesne, métro école militaire.
14 décembre également. La MJC des Hauts de Belleville, à 20h, projection débat, le film « À Bure pour l'éternité » des frères Sébastien et Émeric Bonetti.
Et on termine par la dernière activité qui sera le vendredi prochain.
15 décembre, FPP à 25 ans, et ça se fête. C'est à la Parole Errante, 9 rue François de Berg, à Montreuil. Des concerts, des stands, des tables de presse.
Eh bien, on remercie tous les participants. Patrick qui nous a appelé au téléphone.
Merci bien.
Bob qui nous a rejoint sur le plateau. Jean-Marc et Patrick et Gaël en studio. Et puis, bien entendu, Ludo à la technique. Et on te termine en parlant, non pas de Révolution, mais de Jill Scott Heron qu'on a écouté tout à l'heure avec The Bottle.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared? His old man in a bottle.